Les matins de France Culture, jusqu'à 9h, Guillaume Erner.
Depuis septembre 2017, les indemnités prud'homales en cas de licenciement abusif sont plafonnées, conséquence des fameuses ordonnances de la réforme du Code du Travail, voulue par Emmanuel Macron, pour qui ce plafonnement pouvait encourager les entreprises à embaucher. Mais trois jugements de conseil prud'homaux rendus ces dernières semaines estiment ce plafonnement contraire au droit international. Qu'en est-il, Christophe Vigneault? Bonjour. Vous êtes maître de conférence en droit du travail à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, avocat au barreau de Paris. Alors, il faut tout d'abord rappeler en quoi consistait ce plafonnement.
Bonjour, oui, donc nous sommes depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 22 septembre 2017 face à un plafonnement des indemnités prud'homales. En réalité, il y a un minimum et un maximum pour l'indemnisation en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce qui signifie en cas de licenciement injustifié. Mmh. Donc l'employeur ne pourra être condamné que dans la fourchette d'indemnisation prévue par l'ordonnance du 22 septembre 2017 et donc en l'occurrence sous la fourchette prévue par L1235-3 du Code du Travail.
Et donc il s'agissait de supprimer ce qui était qualifié d'aléa, un aléa juridique qui pouvait être désincitatif à l'embauche. Est-ce qu'il est fréquent de voir en droit des plafonnements, des fourchettes de peines, d'amendes? Est-ce que c'est quelque chose de classique, Christophe Vigneault?
Non, en réalité, le juge est souverain pour apprécier le préjudice. Lorsqu'une faute a été commise, le juge va apprécier la réalité et l'ampleur du préjudice. Ce qui est tout à fait nouveau en droit du travail, c'est qu'on a bridé d'une certaine façon le juge en considérant que celui-ci ne pouvait pas aller, en termes d'indemnisation, au-delà d'un certain plafond. Je rappelle que le plafond prévoit, pour des salariés qui auraient plus de 30 ans d'ancienneté, hein, ce qui est quand même assez long, un plafond de 20 mois, donc qui lie le juge. Et c'est précisément sur cette question...
Ce qui vous paraît faible ou élevé?
La question, on part d'un système... Il y a l'appréciation, est-ce que c'est faible ou est-ce que c'est élevé?
C'est une appréciation importante.
Non, parce que en réalité, on s'aperçoit que il y a deux problèmes. Il y a le problème face à des salariés qui ont beaucoup d'ancienneté, et 20 mois, ça peut paraître beaucoup, mais lorsqu'on met ça en regard avec, par exemple, les durées de chômage de certaines catégories de personnes. Je rappelle que pour certains types de chômeurs, d'un certain âge, de certains sexes, on est sur 2-3 ans en moyenne de période de chômage.
Donc 20 mois, dans ces conditions, ce serait peu.
Ce serait peu. Et de la même façon, lorsque vous avez une faible ancienneté, eh bien, en réalité, on s'aperçoit que le barème est très, 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 très faible. Si vous regardez, par exemple, pour un salarié qui a 2 ans d'ancienneté, la marge du juge, elle est quasiment inexistante. Mmh. Puisque le minimum, c'est 3 mois, et le maximum, c'est 3 mois et demi. Donc, il y a, d'une certaine façon, le juge n'a aucune marge d'appréciation. Alors, et c'est précisément sur cette question que se pose le problème de la conventionnalité du dispositif.
Conventionnalité,
oui, conventionnalité, c'est-à-dire... parce que, en réalité, plusieurs textes internationaux ont été mobilisés. Alors, pour l'instant, je précise évidemment que on est dans une forme d'incertitude sur ce que j'appelle la conventionnalité du barème. Pourquoi? Parce que on a des décisions contrastées de conseils de prud'homme. Vous l'avez dit, trois conseils de prud'homme, dans leurs décisions, ont écarté le barème. Une a considéré que ce barème n'était pas contraire aux textes internationaux, mais quels sont les textes internationaux qu'on peut mobiliser et sur lesquels il y a véritablement, à mon sens, un problème. Il y a l'article 24 de la Charte sociale européenne. La Charte sociale européenne, c'est le pendant de la Convention européenne des droits de l'homme au sein du Conseil de l'Europe, qui proclame une série de droits sociaux. Mmh. La Convention européenne des droits de l'homme proclame des droits civils et politiques. La Charte sociale européenne proclame des droits sociaux. La France...
C'est important de le dire parce que
on n'est
pas tous avertis de son existence, voilà, de cette charte-là.
Ce qu'il faut dire également, c'est que la France a ratifié cette convention. Elle l'a ratifiée en 1999. C'est une convention qui date de 1961. Et donc, la France est liée par cette convention. Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est que le Comité européen des droits sociaux, qui est un comité qui veille au respect de la charte par les États membres, s'est prononcé en 2016 sur un dispositif finlandais qui est exactement similaire au dispositif français.
Et alors, qu'en a-t-il dit?
Il a dit qu'il était contraire à la charte pour une raison très simple. c'est que le Comité européen des droits sociaux a considéré que lorsque l'article 24 parle d'une indemnité adéquate et d'une réparation appropriée, cela signifie que l'indemnité doit avoir un caractère dissuasif pour l'employeur et réparer l'entier préjudice du salarié.
C'est pas la même chose, parce que dissuasif, ça veut dire que ça doit dissuader, donc, comme son nom l'indique, le licenciement, alors que l'on aurait pu se dire que le préjudice devait uniquement être réparé, ou en tout cas que la somme devait être proportionnée au préjudice.
Oui, mais en réalité, les choses sont, l'effet est le même, puisque en réalité, lorsque vous bridez le juge sur le montant qu'il peut allouer, vous l'empêchez de réparer l'intégralité du préjudice qu'il constate. Préjudice, je le précise, qui doit être prouvé par le salarié. C'est pas un préjudice qu'on apprécie comme ça, au doigt mouillé. Donc, en réalité, la question qui est posée, c'est la question de la conventionnalité à l'article 24 de la charte et la conventionnalité à l'article 10 de la Convention internationale 158 de l'OIT.
Mais alors, Christophe Vigneault, parce que vous qui êtes avocat et professeur de droit, ce qui est merveilleux dans cette histoire-là, c'est que finalement, cette loi, elle était faite pour supprimer l'aléa et on se retrouve avec un aléa qui est presque plus important encore qu'auparavant en matière de droit social. Puisque vous dites que
non,
ça n'est pas tranché.
Façon, bon, pour l'instant, c'est tranché par des conseils de prud'homme de façon contrastée. J'imagine que les dossiers vont être portés devant des cours d'appel. Peut-être qu'à un moment donné, j'imagine que la Cour de cassation va se prononcer. Donc on va voir véritablement ce que dit la jurisprudence sur cette fameuse conventionnalité. Il n'en reste pas moins que le débat est sérieux sur cette question, et donc qui mérite d'être posé. Donc, et il faut aussi mettre tout cela en regard sur le fait que cet effet dissuasif, en réalité, le contre-effet de la réforme, ça a eu aussi un effet dissuasif pour les salariés, d'aller devant les prud'hommes. Enfin, vous avez probablement vu la baisse significative des saisines devant les conseils de prud'hommes, mais évidemment, lorsque le maximum que vous pouvez avoir devant un conseil de prud'hommes, c'est entre 3 et 3 mois et demi, évidemment, vous n'avez aucun intérêt à agir devant un conseil de prud'hommes, notamment aussi au regard de la durée des procédures.
Alors, dernière chose, Christophe Vigneault, quand est-ce que l'on y verra plus clair, puisqu'on a vu qu'il y avait encore un certain nombre d'interrogations sur ce plafonnement donc des indemnités prud'homales?
Ben écoutez, on y verra plus clair. Le temps de la justice n'est pas toujours un temps très court, mais on peut imaginer que les affaires vont monter devant des cours d'appel, que la Cour de cassation va se prononcer, et là, on verra ce que dit la Cour de cassation sur cette question, qui est une question sérieuse, effectivement.
Merci beaucoup, Christophe Vigneault. Je rappelle que vous êtes maître de conférence en droit du travail à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.